l'obéchet amechayev kach, alors qu'il n'y avait aucune faute qui ne justifie cela. Ulfi shete ashkafot. Vous voyez comment Maïmonide pose le problème. Le fait qu'on a fini par croire que c'est évident, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de mystère, que plus on est juste, plus on a à souffrir, sans qu'il y ait eu aucune faute, aucune culpabilité qui explique la souffrance. Ulfi shete ashkafot. Et selon ces deux opinions, Kelomar, c'est-à-dire, imhaya ou lohaya, que Job ait existé ou pas, otam adevarim sheikdim otam, ces choses qui sont données dans le prologue, dans l'introduction du récit, Klomar devara Satan, l'intervention du Satan, védivré Hachem la Satan, ce que Dieu dit à Satan, au Satan, en lui livrant Job, umsirato beyado, kolze machal belisafek. Dans les deux cas, que Job ait existé encore une fois comme un personnage historique, monsieur un tel, en telle année, dans tel pays, ou qu'il soit le thème de l'identité humaine, et tel kol baal sechel, apparaîtra à tout homme intelligent, et là, chez Umachal, qu'il s'agit d'une illustration du thème de l'identité humaine. Et là, chez Umachal, chez l'okemo kol ha-meshalim. Mais c'est un machal, je vais reprendre le terme de apologue, qui n'est pas comme les autres apologues. Et là, machal, mais c'est un apologue, chez Tluim Boniflaot, où des choses extraordinaires s'attachent à lui. Ça veut dire un apologue qui semble être contradictoire à l'enseignement qu'il voudrait transmettre, c'est-à-dire que tout va bien, que malgré la souffrance, le monde est cohérent. Tous les apologues, c'est pour nous renforcer l'idée que le monde a un sens cohérent. Or, cet apologue-là vient au contraire tout briser et imposer l'idée contraire, l'idée inverse, que peut-être le monde n'a pas de sens, puisque le mérite et le sort dans la vie n'ont pas de lien. Paradoxe des paradoxes, celui qui est le plus méritant sera le plus souffrant. Et vous voyez, erreur de la conscience religieuse, je ne veux pas dire banale, mais naturelle, une espèce d'erreur de la piété, de croire que ça va de soi, que c'est ça la piété, d'admettre qu'il doit en être ainsi. Vous savez pourquoi le problème est grave ? C'est parce que non seulement l'humanité s'est habituée à croire que c'est cela l'évidence de la piété, mais qu'elle s'en sert d'alibi pour faire le sort du peuple juif. Puisque le peuple juif est le peuple juif, le salut vient des juifs, le salut du monde, eh bien, donc il doit le plus souffrir. Alors arrangeons-nous à le faire le plus souffrir, puisque ça va de soi, que c'est la cohérence de la piété. Vous voyez pourquoi cela est très grave. Et puis toutes ces interprétations absolument scandaleuses que la souffrance des juifs est nécessaire, puisqu'elle est nécessaire au salut du monde. Pour que le monde soit sauvé, il faut qu'il y ait un juste qui sauve le monde, et pour qu'un juste sauve le monde, il doit dafka souffrir. Plus il est juste, plus il doit souffrir. Et puis cet alibi, tranquille, de la part des théologiens des religions rivales du judaïsme, que tout va très bien lorsqu'on massacre les juifs, puisque ça sauve le monde. Donc, ce que dit Maïmonide, c'est que c'est un apologue, mais un apologue incompréhensible. Devarim shem kifshono shel olam, qui dit des choses qui sont la kifshono shel olam, qui embrase le monde. Enfin, lorsqu'on comprend ce que cet apologue veut dire, ça fait brûler le monde. J'allais presque penser au four crématoire. Venit ba'arubo kushiot gedolot. Mais à travers cet apologue seront expliquées de grandes difficultés. Venit ba'arubo imenu devarim amitim. Et seront enseignées des choses vraies, shen le marla mehem, au-delà desquelles il n'y a pas. Ve'ineni maskir lecha ma she'efshar leaskir. Je vais me borner, dit Maïmonide, à mentionner ce qu'il est possible de mentionner. Ve'askir lecha divrei chachamim. Et je citerai les paroles des sages, Asher et Iruni, al kolma chez Avinoti, qui m'ont permis de comprendre ce que j'ai compris, Meoto, Hamashal, Haratsum, de cet apologue considérable. Vehine, et voici. Reshit, ma, shenit, bonen, bo. La première chose à laquelle il faut prêter attention, qu'il faut comprendre. Amru, c'est le fait que le texte dit, Ish, haya, beeret, utz. vivait un homme était dans le pays de Houtz. Echel Beshem Ameshutav, Vehu, Houtz. Le texte commence par désigner ce nom qui est attaché à cette histoire et qui est Houtz. Les filles chez Houchem Adam et Houtz Bechoro. Il faut savoir que ce n'est pas le nom d'un pays, c'est le nom d'un personnage de la Bible. C'est un nom d'homme. Vehu, c'est un nom propre. Vehu, Tzivui, Bahashiva, Bidmoninut, Houtzu, Etza. Et c'est une indication qui nous est donnée de comprendre dans le sens de l'expression Houtzu, Etza. Réfléchissez, prenez conseil. C'est une citation d'un autre verset pour nous donner le sens du terme. La Etza, dont nous avons parlé tout à l'heure, ça veut dire que, de la même manière, si vous voulez, qu'il y a des enseignements qui sont situés au pays de l'utopie. Alors ici, cet enseignement serait situé au pays de Houtz, c'est-à-dire au pays des gens qui réfléchissent. Mais à peu près dans quel sens Maïmonide explique cela. Vechilu yomar lecha, et c'est comme si le texte voulait t'indiquer, à te dire, te suggérer, hachev v'machalze, et de réfléchir à cet apologue, vehid bonenbo, réfléchis à cela, comprends, veda ignano, comprend ce qu'il veut enseigner, vehaben, et comprend, haashkafa nechona ezohi, laquelle des considérations, des explications de ce problème, la souffrance du juste, est la plus authentique. Veharkar, et après cela, le texte dit que, donc la première notion, je crois, est claire. Ça veut dire qu'on veut tout de suite nous avertir qu'il y a quelque chose à comprendre. Deuxième indication. Le texte dit qu'Ibena Elohim, Baoul et Ikiasev Alachem. Qu'il y a eu, vous rappelez du prologue du livre de Job. Donc le jour est arrivé où les anges se réunissent en conseil autour de Dieu pour juger la terre. D'après certains Midrashim, ce jour-là, c'était le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement. Et ce jour-là, tous les anges chargés de régir les phénomènes du monde, eh bien, sont rassemblés en tribunal. Ou bara Satan betocham ou bichlalam, et que le Satan, nous aurons donc à définir très attentivement quelle est la fonction du Satan parmi les anges. Le Satan vient avec eux. Les filles chez Amar, mais alors exégèse importante, nous dit Maïmonide, le verset ne dit pas et bnei ha'Elohim, les anges, vers Satan et le Satan. Sont venus, Baou, les Itiasev à Hachem, pour se grouper, se tenir devant Dieu. Et alors là, nous comprendrions que le Satan fait partie, au même titre que tous les autres anges, du monde des anges. Et je reviendrai sur la définition. À ce moment-là, nous aurions une même définition de tous les anges, le Satan y compris, si l'expression avait été « les anges et le Satan sont venus se rassembler ». Mais le texte dit autrement. « Et là, Amar, voici ce que dit le texte. « Vayavohu bena Elohim l'itiasev alashem » Les anges sont venus se rassembler autour de Dieu. « Vayavo gam ha-Satan betocham » Et même le Satan est venu avec eux. Ça veut dire que c'est contingent, le fait que le Satan soit là. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit toujours parmi les anges. Il est d'une autre catégorie, si vous voulez. C'est clair ? Et nous verrons comment Maïmonide va utiliser cette remarque. « Betsurat diburzu enan emra elabe misheba veno matara le asmo velo darush mehamat asmo » Cette manière de s'exprimer n'indique pas du tout que, de façon essentielle, le Satan fait partie au même titre et au même niveau que tous les anges, et la kivan shenochar misha matara nochechuto baze biklal misheba. Mais c'est par le fait que ce jour-là, cette fois-ci, il était nécessaire que le Satan soit avec les autres anges que le Satan est venu. Veharkar iskir ki a Satan hazehu meshotet baaret umitalerba. Et tout de suite, on nous apprend que le Satan n'est pas dans le ciel, mais qu'il est sur terre, dans le texte du prologue du livre de Job. Quand le Satan vient parmi les anges, Dieu lui demande d'où tu viens. Il dit, je viens de mes randonnées sur terre. Alors, Maïmonide nous dit, faites bien attention. Tout de suite, nous comprenons que le Satan fait partie des forces du monde terrestre. Alors que les anges dont on parle sont, si vous voulez, je garde ce vocabulaire provisoirement, sont à un tout autre niveau, au niveau du monde céleste. Ven beno le ben aïlionim yahas klal. Il n'y a aucun rapport d'identité entre le Satan qui fait partie des êtres du monde humain, si vous voulez, du monde terrien, si j'ose dire, et on va, qui est ce personnage, qui est cette force avec les êtres d'en haut. Venlo, Shem Shotetut, Hu Omro, Mishut Baaret, Mitalerba, En Italihuto, Veshetoto, Kimbaret. Ça veut dire que là où il se trouve, son domaine, c'est la terre, et non pas le ciel. Immédiatement après, le texte dit que cet homme droit, que ce tzaddik, que ce juste, est livré entre les mains du Satan. Et que tout ce qui arrive à Job, cet homme juste, la cause en est le Satan. Déjà, il faut mettre en évidence le sens de cette remarque qui n'est pas encore achevée. Maïmonide veut nous faire comprendre déjà qu'une des erreurs fondamentales qui fausse toute la perspective de compréhension de ce problème dans le livre de Job, c'est de croire que les souffrances de Job viennent de Dieu, alors qu'elles viennent du Satan. Et que le Satan n'est pas un de ces anges d'en haut, du conseil de Dieu en haut, mais une force de la terre. Et je voudrais quand même, si vous voulez, un peu anticiper sur le plan de Maïmonide et expliquer que ce que Maïmonide nous dira, et pourquoi il y a ce problème du scandale, de l'incompréhension de la souffrance du juste, c'est lorsqu'on croit que cette souffrance vient de Dieu directement. En réalité, elle ne vient pas de Dieu, nous expliquera Maïmonide, elle vient des conditions de l'existence terrestre. Et elle ne fait pas partie de l'intention du Créateur pour la créature de façon directe. C'est-à-dire, lorsque l'on croit que c'est Dieu qui, si j'ose dire, s'amuse à jouer avec Job et le fait souffrir, alors le scandale est irrémédiable et il n'y a aucune explication possible. La contradiction est irrémédiable. Mais si on comprend que le texte lui-même va indiquer que ce Satan qui fait souffrir Job est une force du monde existentiel de l'homme et non pas un parmi les anges dans le sens des volontés du Créateur, alors déjà, nous avons la porte s'ouvre à l'explication. Et peut-être que ce soir, on ne pourra pas aller jusqu'au bout du chapitre, mais au moins, nous essaierons d'arriver à ce problème. V'chaasher niyah. Et lorsque Hanahazo, et lorsque on aura admis ce postulat, alors on comprendra. On comprendra d'où vient l'erreur de l'explication que Job lui-même donne de son problème et celle de ses amis. Alors que moi, Vaniashmialecha Otam Bebiur, je les reproduirai pour les expliquer avec clarté. Klomar Otam Ashkafot Asher Nechelfulaem Amarshavot Mehamatam. Toutes ces considérations que les amis de Job ont eues d'après leur propre postulat, que c'est Dieu qui fait souffrir Job, Beparashazo, Asher Ayasibata Kula Satan, alors qu'en réalité, la cause directe et immédiate des souffrances de Job, c'est le Satan, et ce n'est pas la volonté de Dieu. Or, tous avaient cru comprendre, tant Job que ses amis, qui Hachem Asazot, que c'est Dieu lui-même qui faisait cela, Be'atzmo, par lui-même, l'obem tsaout à Satan, et pas à travers le Satan. Alors, ici, une explication est déjà nécessaire. Vous comprenez au moins déjà formellement le principe d'explication de Maïmonide. Si les souffrances de Job viennent directement de Dieu, il n'y a pas de solution. On est renvoyé à cette incompréhension indignée et de Job et de ses amis et les différentes explications qui vont tenter d'être données. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a en aucun cas dans le texte de dire que c'est Dieu qui fait souffrir Job, c'est le Satan. Et qu'est-ce que c'est que ce Satan? Je ne sais pas si nous y arriverons déjà ce soir, mais Maïmonide va citer une opinion du Talmud qui nous dit « le Satan, c'est le mauvais penchant qu'il y a en l'homme. » Petite parenthèse, j'ai dit, et je continue à dire, le Satan, ha Satan, et non pas Satan, comme nous avons dans la lecture, par exemple, chrétienne de la Bible. Satan, c'est quelqu'un, alors que le Satan, c'est pas quelqu'un. Vous voyez, il y a l'article, comme on dit, l'article qui montre que c'est une réalité, mais ce n'est pas, il n'y a pas un anti-dieu qui serait le diable face à Dieu, le diable, Satan, mais il y a une réalité qui fait partie des conditions de l'être du monde, mais qui n'est pas quelqu'un. Et une de ses opinions, c'est de dire, et nous la verrons en détail par la suite, le Satan, c'est le mauvais penchant qu'il y a en l'homme. Il y a dans les conditions d'existence de la créature une force qui a sa nécessité propre et qui, elle, est la cause immédiate de la souffrance, en particulier, du juste. Ce yetzer hara, se penchant au mal, c'est la condition de notre existence comme créature, c'est notre autonomie de créature qui nous est nécessaire et qui nous sépare de Dieu, de telle sorte de pouvoir exister par soi-même, c'est la source de tout mal en nous, mais cette source de tout mal en nous a une finalité ontologique. Pour que nous existions différents de Dieu comme créature, il faut que nous ayons en nous l'appétit de recevoir l'être qui vient du Créateur, et c'est cet appétit de recevoir l'être qui finalement travaille en nous et nous met dans la condition existentielle dont une des dimensions particulières est la souffrance. Tant que l'on n'a pas mérité d'être, alors l'exigence d'être entraîne la souffrance. C'est une force qui est immanente à la créature, le yetzer hara ha-satan hu ha-yetzer hara, et qui n'est pas la volonté de Dieu lui-même. Nous sommes rejetés en dehors de toute cette imagerie fictive du pastiche de la Bible que l'on connaît dans la civilisation occidentale, et que Dieu est un être tout-puissant, mais qui va pousser le mystère du caprice jusqu'à mettre à l'épreuve les créatures gratuitement, d'où ce scandale qu'un juste, parce qu'il est juste, doit souffrir, parce que par définition, il doit être mis à l'épreuve par Dieu. Vous voyez comment Maïmonide, intentionnellement, va nous écarter cette vision des choses, de telle sorte ensuite de pouvoir la récupérer d'une certaine manière, mais d'abord d'évacuer l'idée de l'injustice de ce problème. L'idée de l'injustice serait irrémédiable si le texte avait dit que c'est Dieu qui fait souffrir Job. Mais c'est tout à fait autre chose. Dieu donne la possibilité au Satan de mettre à l'épreuve Job. Deuxième note de Maïmonide. « Ve'ayoter mouflé, ve'tamoua » est la chose encore la plus extraordinaire. « Bechol ha'she'ela azu » dans toute cette question. « She'loti ereti yob e'chokhma » c'est que le texte ne nous dit pas que Job est sage. Comment dire ?« Hacham » sage, ce n'est pas ici dans le sens moral de ce terme. La sagesse dans le sens d'être raisonnable ou être sage, mais dans le sens d'être capable de comprendre. Hacham. On ne nous dit pas que Job était un Talmid Hacham. C'est très important, nous dit Maïmonide. Il nous fait faire là une découverte très, très importante. Pourquoi Job ne comprend pas ce qui se passe pour lui? C'est parce qu'il n'est pas Talmid Hacham. S'il était Talmid Hacham, il comprendrait. Alors, de quoi s'agit-il? Velo Amarish Hacham Omevin Omaskil. Le texte ne nous dit pas qu'il était sage ou intelligent ou masquille, aussi intelligent, si vous voulez. Et là, Taharu be ma'ala midotit ve yosher ma'asi. Mais on l'a défini dans une catégorie morale. Il est intègre, il est juste, il est parfait dans, au niveau de la qualité morale. On ne nous dit pas qu'il est capable de comprendre, qu'il est Talmid Chacham. Ki ilu haya Chacham. Parce que s'il était Talmid Chacham, sa souffrance ne lui aurait pas été insupportable. Et en quoi? Ici, nous sommes très proches d'une explication qui serait parallèle à la position stoïcienne, des stoïciens du problème. C'est-à-dire, d'une certaine manière, de comprendre l'ordre des choses évacuerait le caractère tragique de la souffrance. Mais avant d'y arriver plus en détail, je voudrais vous dire, malgré tout, comment Maïmonide entend ce problème. Où est l'erreur de sagesse de Job qui fait que sa souffrance lui paraît insupportable parce qu'incompréhensible? Maïmonide va nous dire une chose très difficile à comprendre, mais c'est ça son chidouche, c'est là l'explication originelle aussi qu'il nous donne. Il nous dit l'erreur de Job, c'est de croire que ses souffrances étaient vraiment des souffrances. Et c'est là qu'étaient vraiment des souffrances. Que des issourines qui portent sur des biens physiques, fussent la relation aux enfants, sont vraiment des épreuves. Et, étant donné qu'il croit que le bien, c'est la jouissance au niveau de l'avoir, alors lorsque l'avoir est atteint, il croit qu'il y a là véritablement des épreuves irrémédiables. Il n'a pas compris que le véritable bonheur ne porte pas à ce niveau-là, que par conséquent, lorsque le chaos du monde atteint ces choses-là, il n'y a aucun scandale, parce que ce n'est pas ça le vrai bonheur. Bon, je vous dis la thèse très rapidement, et il est bien évident que c'est une thèse difficile à comprendre, mais nous essaierons quand même de la comprendre. Et il s'agit de faire une analyse du véritable bonheur. Et si Job était Talmid Chacham, il aurait compris que ses souffrances ne sont pas scandaleuses, parce qu'elles ne portent que sur des choses éphémères, que sur de l'avoir. Et que ce soit les richesses et les jouissances que les richesses donnent, que ce soit les enfants, que ce soit la santé physique. Et nous dit Maïmonide tranquillement, il nous dit là une chose énorme, n'est-ce pas ? Tout ça, ça n'a pas d'importance. Donc il n'y avait pas de problème. Et où était, si vous voulez, le scandale de Job prenant conscience de lui-même ? Il était dans une erreur de diagnostic, il n'était pas Talmid Chacham. S'il était Talmid Chacham, il aurait compris que, comme on disait en judéo-arabe, « mahlesh », ça n'a pas d'importance, tout ça. Et il est bien évident que nous découvrons là une thèse extrêmement importante, mais difficile à comprendre. Alors nous y arriverons d'ailleurs assez rapidement. Avant d'aller plus loin, vous avez une question ? Très rapidement, oui. Comment ? Au contraire, parce que ce que promet les psaumes, c'est la béatitude des véritables biens, les biens spirituels. Et l'erreur consiste à entendre ces choses-là au niveau de l'approximation matérielle que représente la jouissance. Et avant d'aller plus loin, si vous voulez, et peut-être je conclurai la première analyse ce soir ici, je ne sais pas si on arrivera à boucler tout le programme. Écoutez, si on ne termine pas la première semaine, je déborderai sur la deuxième semaine, quand même ce sont des textes importants à comprendre en détail. Je voudrais vous dire comment, dans le chapitre 23, Maïmonide nous formule les tentatives d'explication qui sont données à ce problème, la souffrance du juste, par Job et par ses amis. Et tout ceci est à rattacher à cette remarque très féconde de Maïmonide que le texte nous a prévenu. Il ne s'agit pas d'un Talmid Chacham. Job peut être juif, il peut être non-juif, mais il n'a pas la vraie connaissance. Alors il ne comprend pas pourquoi sa souffrance n'est pas du tout scandaleuse. Ce qui lui fait croire que sa souffrance est scandaleuse, tragique dans le sens grec, c'est qu'il y a une erreur de diagnostic. Qu'est-ce que sont les vraies épreuves ? Et vous voyez comment le texte avait pris la précaution de nous dire que Dieu recommande au Satan, surtout ne touche pas l'intégrité de sa conscience, son nefesh. Tu peux porter atteinte à tout ce qu'il a, mais pas à son être. Si effectivement il avait été porté atteinte à l'être, alors là, ça aurait été des épreuves incompréhensibles. Et on chercherait la culpabilité, on chercherait une explication. Lorsque la Gemara de Brachot parle des Issourin, elle parle de deux catégories de Issourin, les épreuves. Il y a soit des épreuves d'amour, soit des épreuves de châtiment. Et elle nous donne un critère pour diagnostiquer s'il s'agit d'une épreuve d'amour ou d'une épreuve de châtiment. Elle dit, si il y a deux opinions, mais nous verrons pourquoi les deux opinions sont nécessaires. Si pendant l'épreuve, première opinion, on peut continuer à prier, alors que c'est une épreuve d'amour et pas une épreuve de châtiment. Deuxième opinion, si pendant l'épreuve, on peut continuer à étudier, alors c'est une épreuve d'amour et pas une épreuve de châtiment. Mais l'épreuve d'amour se distingue par le fait que l'intégrité de la conscience n'est pas atteinte. La possession des biens spirituels n'est pas mise à l'épreuve ne porte pas là-dessus. Je reviens à la Gemara elle-même. Pourquoi ces deux opinions ? Parce que pour certains, l'expérience spirituelle est la prière, plus que l'étude. Pour d'autres, l'expérience spirituelle est l'étude, plus que la prière. En dominante, si vous voulez, c'est pourquoi la Gemara doit nous donner les deux critères, mais c'est que les deux sont vrais. C'est-à-dire, si pendant l'épreuve, on peut encore être relié à Dieu par la prière, ou être relié à Dieu par l'étude de la Torah, de la révélation de sa volonté, alors c'est qu'il ne s'agit pas d'une épreuve de châtiment. L'épreuve de châtiment, inversement, est diagnostiquée par le fait qu'elle met dans l'handicap de l'incapacité de prier ou d'étudier. Et on voit bien que Dieu dit au Satan, surtout pas d'épreuve de châtiment, épreuve d'amour, puisqu'il lui donne comme consigne ultime, ne touche pas à sa conscience. Tu peux toucher à tout ce qu'il a, les biens, les enfants, son corps, mais pas la présence de lui-même à lui-même. Et donc, déjà dans cette explication, nous voyons qu'il n'y a pas de culpabilité. Il ne s'agit pas d'une épreuve qui vient payer une faute par châtiment. Dans toute cette analyse jusqu'à présent, il y a quand même un point qui nous gêne. On comprend pour les possessions matérielles. On comprend même pour la santé physique, il reste vivant, mais la mort des enfants. Et depuis le début, cette question était en filigrane. Quand j'ai dit tout à l'heure, au début, dans l'introduction du début, que bien sûr, on lui rend tout, mais ce n'est pas les mêmes enfants. À la rigueur, si vous voulez, que le compte en banque soit perdu, mais qu'il y en ait un autre, ce n'est pas la même monnaie, elle a dévalué entre-temps, mais c'est quand même de l'argent. Tout le reste, mais les enfants, ce n'est pas les mêmes. Et là, je me permettrai d'être un peu en désaccord avec M. Neher, que je vous ai cité tout à l'heure, enfin même un peu plus qu'un peu d'ailleurs, en ce sens qu'il aurait, lui, tendance à réintégrer la dimension tragique dans l'épilogue, en disant, bien sûr, mais regardez ce scandale, à quoi Dieu joue avec Job, bien sûr, il y rend des enfants, mais ce n'est pas les mêmes, et que la tragédie se réintègre là. Alors je voudrais quand même déjà aller un peu plus loin dans l'analyse. En ce sens, M. Neher a fait, dans l'exposé auquel je me réfère, une référence très explicite à ce que Job, c'est le peuple juif. Et nous sommes à l'anniversaire de la fameuse nuit de cristal où a commencé la grande persécution de la Shoah. Il restera dans l'histoire que c'est aussi l'anniversaire où l'ONU, à lundi 72, a voté ce que vous savez. Bon. Eh bien, 30 ans après. Et alors, il dit ceci, et voilà, la génération suivante, ça c'est l'épilogue, il y a de nouveau des enfants juifs. Et nous avons vécu un temps où on pouvait croire que tout était perdu, il y a 30 ans. Mais voilà que 30 ans après, tout ressuscite. Mais voilà, ce ne sont plus les mêmes enfants, et on portera toujours le deuil de ce qui ne reviendra plus jamais, c'est-à-dire ceux qui sont partis dans la fumée des camps. Eh bien, une des opinions de la Gemara que Maïmonide va citer pour dire en quoi Job ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrive et pouvait craindre de croire que c'est l'irrémédial du scandale tragique d'Afka, et c'est là que je cite M. Neher, à cause du problème des enfants. C'est le fait de se rendre compte, la Gemara dit quelle était l'erreur de Job. Il était kofer bitriat ametim. Il ne croyait pas dans la résurrection des morts. Et là, vous avez l'explication. Les kabbalistes disent, en utilisant cela, un peu au-delà, ils ne comprenaient pas qu'est-ce que ça veut dire qu'il y aura un monde à venir. Alors, je reprends cet épilogue. Bon, Dieu a rendu des enfants à Job, mais il y a le même scandale, parce que ces enfants que Dieu a rendus à Job, ils vont aussi mourir. Et alors, de deux choses l'une, ou bien après la mort, c'est fini, et tout est scandaleux. Ou bien, après la mort, il y a le monde de la résurrection et le monde à venir, et à ce moment-là, quelles que soient les circonstances, ou le temps de l'époque, de l'histoire de ce monde-ci, où la mort est apparue, tous reviennent, et les premiers enfants, et les deuxièmes. Donc le tragique est complètement évacué, à condition que Job comprenne que ce monde-ci mène à un monde à venir. S'il n'y a pas de Olam Haba, les deuxièmes enfants aussi, c'est le même scandale que les premiers, puis qui vont aussi mourir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les premiers enfants sont morts, apparemment injustement, mais les deuxièmes enfants aussi sont morts. Et pourquoi ce serait moins injuste qu'il meure de vieillesse ou qu'il meure de maladie? C'est parce qu'il s'agit du problème de la destinée humaine. Si après la mort c'est fini, eh bien, quelle que soit la forme de la mort, il y a le même scandale. Et mourir dans son lit, c'est pas moins scandaleux que partir en fumée. Si après la mort il n'y a rien. Mais si après ce monde-ci il y a le monde à venir de la rétribution, alors à ce moment-là il n'y a plus aucun scandale. Sinon, de comprendre le chaos du monde qui fait que le sort peut risquer d'apparaître comme contradictoire avec le mérite. Et c'est là que l'explication de Maïmonide reprendra sa force. Il y a dans les constituants du chaos du monde une force qui joue et qui fait que le sort de l'individu semble incompréhensible par rapport à l'enseignement de la Torah, que l'individu a un sort suivant son mérite. C'est le Rav Kook, en fin de compte, qui a été le premier à donner de la façon la plus claire l'explication de ce problème. Il faut se relier à la récapitulation au niveau de l'être collectif. Lorsqu'on isole le sort de l'individu de la collectivité, on ne comprend plus rien dans les rapports entre le mérite et l'être. Mais lorsque c'est relié au sort du klal de la collectivité, alors il y a compensation ontologique. Mais à une condition, c'est de rester dans cette ligne de l'enseignement de la Gemara que je viens de vous citer, c'est que ce monde-ci mène quelque part. Je pense que c'était suffisamment clair. C'est-à-dire, si après ce monde, il n'y a rien, même la mort des deuxièmes enfants est aussi scandaleuse que celle des premières. Et par conséquent, je crois qu'il faut bien comprendre que, par là, nous évacuons définitivement la dimension de tragique du livre de Job. Même cette dimension que voulait mettre en évidence M. Neher, qui est que, bien sûr, il a de nouveau eu des enfants, mais ce n'est pas les mêmes. Si Job ressuscite dans le monde à venir avec tous ceux qui ont vécu l'histoire de ce monde-ci, eh bien, il retrouvera et les premiers et les derniers, si j'ose dire. Et il s'apercevra que les premiers étaient les derniers. Oui ? Attendez, pas tous à la fois, oui ? Pour oui. Alors écoutez, là, bien évidemment, on rentre dans des problèmes extrêmement délicats. Mais si vous voulez, j'en parlerai. Je traiterai de cela. Et, en ce sens que, où est le scandale ? C'est là, dans la souffrance de maintenant. Quand est-ce que la souffrance est scandaleuse ? Quand je suis en train de souffrir. C'est dans le contemporain de la souffrance que la souffrance est scandaleuse. Alors comprenez bien une chose. C'est que s'il n'y a rien après la mort, eh bien, toute la vie est scandaleuse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est le point précis de notre problème. C'est qu'il ne semble pas y avoir de relation entre le mérite et le sort des hommes. Alors, nous parlons de ce problème. Mais je veux revenir au chidouche de Maïmonide lui-même. Maïmonide nous dit ceci. La première erreur de Job, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre qu'il n'est pas touché sur des vrais biens. Il n'est pas éprouvé sur des vraies épreuves. Et si vous voulez, Job nous apparaît comme un homme qui ne voit que l'aspect matériel de ce qui donne le bien. Alors lorsque c'est l'aspect matériel qui est touché, il croit que c'est son bien qui est touché. Mais nous avons vu déjà qu'il n'en est rien. Il faudra arriver à réidentifier cela. Mais deuxièmement, je parlais du problème des enfants. Cette première explication était acceptable, sauf la question des enfants. Le fait que bien sûr Job à de nouveau des enfants, mais ce n'est pas les mêmes. Alors là, il y a une perte irrémédiable. Mais parce qu'on oublie que l'enseignement de la Bible se trouve dans la cohérence que ce monde-ci mène au monde à venir. Et dans le monde à venir, Job retrouve ses enfants et c'est les mêmes. Je pense que c'est clair. Ce scandale que ce n'est pas les mêmes enfants ne vient que si il n'y a rien après la mort. Enfin, je dis ça un peu de façon un peu enfantine, mais vous comprenez ce que je veux dire. Or là, m'abat. Et par conséquent, il est bien évident que et la dimension du tragique est évacuée. Et cette dimension du tragique, elle est, vous savez que c'est la notion de Asher halchu le'olamam le kiddush Hashem. Ils sont allés dans leur monde dans une occasion de sanctification du nom, ce qui est la sanctification de leur mort. La question est de savoir pourquoi ils sont allés à leur monde en passant par ces épreuves-là. Mais de ça, nous aurons à parler, si vous voulez. Mais, je veux dire, la véritable injustice ne serait pas la façon de mourir, mais le fait de mourir. Et s'il n'y avait pas de Olam Haba. Ça veut dire, lorsque nous disons d'un homme qu'il est mort, c'est une façon de parler. La mort, ça n'existe pas. Il y a changement de vêtements. Mais faut comprendre les choses au niveau où elles sont dans l'enseignement biblique. Hein, pas ? C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, les rites de deuil ne sont pas midoraïta, ils sont midorabanan. Il n'y a aucune allusion au mitzvot de la pratique du deuil dans Torah Moshe, parce qu'il n'y a pas de mort. Banim, atem, lachem, elokechem. Vous êtes les enfants du Dieu vivant. Il n'y a pas de mort. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un épisode qui s'appelle l'enterrement. Et puis, de deux choses, une, ou je crois que c'est fini, il n'y a rien après, ou je crois qu'il y a Olam Haba. Si je crois qu'il y a Olam Haba, la mort, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle il est interdit, d'après le Shulchan Aruch, de pleurer à côté d'un mort. Parce que ça veut dire que vous croyez qu'il est mort. Alors, je pense que c'est clair. Et que c'est une insolence inouïe de pleurer à côté d'un mort. Ça veut dire que vous lui dites, tu es mort. Comment ? Oui, non, mais ce que je veux ajouter là est important. Enfin, à partir du moment où Job pense comme Ésaü, Hineni holech lamut lama li bchora, je vais mourir, il n'y a rien après, à quoi me sert la vie? Eh bien, à partir de ce moment-là, ça risque de devenir scandaleux. Alors, je crois que c'est un moment important. Je voudrais bien le formuler avant d'arriver à la conclusion. C'est que, première erreur de Job, et il a pris au sérieux les épreuves matérielles. Deuxième erreur de Job, qu'il ne faut pas faire, c'est de croire que tout se passe dans cette vie. Si tout se passe dans cette vie, rien n'est compréhensible. Et tout est scandaleux. Enfin, je veux dire, très simplement, si la mort, c'est la mort, de Varim Kipshutam, alors toute la vie est scandaleuse. Et je ne pense pas qu'un... Au fond, c'est ça la définition de la foi juive. C'est un optimisme absolu. Et ça commence par là. Que la vie ne s'arrête pas à la mort. Parce que ce serait un monde complètement incompréhensible. Non, mais je ne vous dis pas ça simplement comme découverte du problème. C'est la conséquence de millénaires de réflexion de la sagesse juive. Que ça va de soi, que ce monde-ci mène à un monde qui vient, que Olam Hazeh mène à Olam Haba. Si je comprends ce qu'est ce monde-ci, et la finalité de la durée, et des engendrements dans la durée, et de l'effort d'être, et de ce qui se passe dans l'histoire, et de ce qui se passe à travers la durée du temps, et de la permanence d'Israël, qui donne un sens à l'histoire de l'humanité tout entière, eh bien, alors je comprends que ce monde-ci mène quelque part. Et ça, c'est aussi à rattacher à la machloquette qu'il y a dans la Gemara, est-ce que Job était juif ou non juif? Ça veut dire, est-ce qu'il savait qu'il y a un autre monde ou pas? Aussi, de ce point de vue-là. Alors, je voulais surtout revenir à la question des enfants. C'est que c'est une erreur de croire que Job n'a pas retrouvé les enfants qu'il avait perdus. Il les retrouve dans la perspective du monde à venir. Et il s'aperçoit que les derniers étaient les premiers, que c'était les mêmes, sous une autre apparence. Et ça se récapitulera. D'ailleurs, vous verrez bien, quand on y sera, que c'est comme ça que c'est. Top. Est-ce qu'il y a une autre... question. Alors, je veux aborder immédiatement les différentes, très rapidement. Écoutez, comme on n'y est pas encore été, là, non, la vérité, je sais pas. Mais dites-moi, est-ce que ça a beaucoup d'importance de savoir comment ça va se passer? Ou bien ce qui est important de savoir, c'est si ça va se passer. Comment ça va se passer, ça n'a aucune importance. C'est pas un problème, ça. Peu importe. Vous savez, tout cet enseignement se trouve dans le 11e chapitre de la Gemara Sanhedrin, dans le Perek Helek, et je pourrais vous énumérer 1000 questions. Si, par exemple, un homme a eu plusieurs femmes dans sa vie, avec laquelle il ressuscite, on verra bien. Pardon ? Quel verset ? Non, il est possible qu'il cite, là vous savez, dans l'Ecclésiaste, il cite les opinions qu'il combat. Il est possible que vous citez une des opinions que Kohelet combat. Hein ? Non, non, c'est une hypothèse de l'intelligence humaine. C'est l'hypothèse d'Ésaü. Nous avons étudié ça ce matin encore au Sidra. Esav dit Hineni holech lamut lamali bchora. Pourquoi il a donné l'aînesse, la bchora, à Jacob? Je dis, à quoi ça me sert, ça, d'être l'aîné? Puisqu'après la mort, quand on est mort, on est fini. Ça, c'est Ésaü. Hein, vous voyez, cette expérience du monde, que le monde n'est qu'une tombe. C'est goy, ça. Je pense que c'est clair. L'optimisme de l'identité juive, hébraïque, c'est de savoir que le monde est un berceau, c'est pas une tombe. Le monde, c'est un endroit où l'on naît, pas où on meurt. Et on voit bien qu'on meurt. Eh bien, on change de costume aussi un jour. C'est un incident. Enfin, c'est intentionnellement que je l'exprime de cette manière. Pour la sagesse juive, ça ne fait pas de problème. Ce n'est pas un problème sérieux, ça, de croire que la mort, c'est la mort. Ça, il faut être goy pour croire ça. Je ne sais pas comment dire. Oui ? Non, pas puisqu'on est là. Eux-mêmes, eux, sont encore vivants, quelque part ailleurs. Oui. J'ai pas dit ça. Le fait que ça soit passé comme ça, c'est un scandale de l'histoire du monde, et on cherchera, si vous voulez qu'on en parle, je sais pas si on est déjà assez loin de l'événement pour avoir le droit d'en parler, mais il faudra chercher les responsabilités. Ce qui s'est passé là sera payé par les responsables. Et il s'est passé du mal. Mais le fait que ces êtres ont disparu, ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu. C'est ça que je veux dire. Qu'on les retrouvera. C'est sur ce point que j'ai voulu expliquer. Le fait que ce soit passé comme ça s'est passé, c'est un scandale avec un grand S. C'est un scandale monumental. Et si la question se pose à nous de savoir qui est responsable, tout ce que la Torah peut dire, ce n'est pas Dieu. Qui est responsable ? Et peut-être vous aurez la surprise de comprendre un jour que ce n'est pas non plus seulement les goyim, ce sont les juifs aussi. Bon, mais nous verrons ça un peu plus en détail. Bien, j'ai dit pas seulement, mais ils le sont responsables. Oui, encore une question, si vous voulez, je voudrais arriver à la conclusion. Oui. Vous revenez à l'analyse précédente. Écoutez, par rapport à un jugement que l'on ferait rapporté à lui-même, et là le texte est très clair, c'est un blasphème, c'est Dieu qui le dit, de supposer que Job avait fait des fautes. Puisque le texte dit que non, qu'il n'a fait aucune faute. Et Job, lorsqu'il se plaint indigné à ses amis théologiens qui l'expliquent, tu sais, peut-être que tu as fait des fautes, alors tu payes tes fautes, il dit, vous n'avez pas le droit de me dire ça, je sais que je n'ai pas fait de faute, je sais que je ne suis pas, qu'on ne peut pas m'accuser de ce que vous m'accusez. Il se connaît comme juste, et à la limite, c'est dans le Peri Tzadik, c'est surtout enseigné, dans le titre Kata Tzadik du Peri Tzadik, que ça innocente tous les hommes. Tous les hommes qui croient que la difficulté de la vie vient payer des fautes, tout ça c'est une illusion. Qu'au jugement dernier, l'homme se saura, connaîtra qu'il a toujours été innocent à travers l'histoire. Et c'est pour cela que le jugement dernier tarde, selon une tradition des kabbalistes. Dieu attend de pouvoir être sûr qu'effectivement tout le monde peut être sauvé. Alors à ce moment-là seulement, il fera le jugement dernier. Sinon, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Vous comprenez quel est le thème qu'il y a là ? Ça veut dire qu'il y a une patience absolue, qu'il se dévoile, et le jour où il se dévoilera, que l'humanité mérite d'exister, à ce moment-là, on fera le jugement. Et j'ai fait allusion à cette faute d'être. Alors, ça évacue le tragique. Vous comprenez, c'est une chose qu'il faut arriver à identifier. Lorsque, si vous voulez, comme véhicule de l'être, on n'est pas à la hauteur de l'être qu'on reçoit, la bénédiction qui consiste à recevoir l'être se transforme en malédiction. Et où était la faute ? Il n'y avait pas de faute. On n'est pas encore au point. Ce n'est pas une question de culpabilité dans le sens d'avoir à payer une faute. C'est une question qu'on est encore d'authenticité. On n'est encore que approximatif de ce que l'on doit être. Mais on n'a pas fait de faute. On n'a pas violé de valeur. On n'est pas à la hauteur. Et ne pas être à la hauteur, et tout en étant donné à cette hauteur, ça fait souffrir. Mais c'est une souffrance qui ne vient pas punir des fautes. Qui est un appel à un dépassement, si vous voulez. Mais j'aime pas ces expressions trop littéraires. Enfin, il y a de ça. C'est un appel au dépassement. Mais c'est pas une punition. Bien, alors je voudrais, si vous voulez, mais très rapidement, parce que, oui. Plus fort ? Mais évidemment que non, bien sûr. Non, c'est pas parce qu'un homme ne croit pas qu'il n'y a pas de monde à venir, qu'il n'y en a pas pour lui. Il a dit une bêtise, mais c'est tout. Vous comprenez ? Ça veut dire, c'est pas parce que un hérétique ne croit pas à la résurrection des morts, qui ne ressuscitera pas. C'est une chose trop importante, le sens de la vie des hommes, pour que Dieu tienne compte de bêtises que des gens disent. Ils pensent, ils croient qu'ils pensent. Bon, il a dit une bêtise, pas plus. C'est ce qu'on étudie dès le début du Perekhelek, du chapitre 11 de Sanhedrin. C'est pas, il ne suffit pas que quelqu'un dise « je crois pas qu'il n'y a pas de monde à venir » pour qu'il n'y en ait pas. Il faut être un peu sérieux. Ça dépend pas de ce qu'il croit. Là, nous parlions de l'option d'optimisme. Israël sait par expérience spirituelle que c'est ainsi qu'est le monde, un monde qui mène quelque part. Le fait de craindre, de croire que ça mène nulle part, ça c'est le pessimisme d'Ésaü. Mais Jacob, qui est donné à la vie, sait où il va. Vous savez, quelle est la question ? La question est la suivante. La Gemara se demande pourquoi la Torah ne fait pas allusion à ça, qu'il y a un monde à venir. Oui ? Et il y a des gens qui prennent la Torah à la lettre, les Sadducéens, ont affirmé qu'il n'y a pas de monde à venir puisque la Torah n'en parle pas. Mais en fait, quel est le fond du problème ? Ce qui serait inquiétant, c'est que la Torah ait à nous dire cela. Si elle avait à nous dire cela, c'est pas à nous qu'elle a à parler. La Torah ne s'adresse qu'à ceux qui vont au monde à venir, pour leur donner le mode d'emploi. Si elle a premièrement à nous révéler, tu sais, il y a quelque part où aller, c'est pas à nous qu'elle parle. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, la Torah n'a pas à nous dire qu'il y a un monde à venir. La Torah, c'est pas un catéchisme. La Torah, c'est la révélation à Israël qui va au monde à venir. Alors on lui donne le mode d'emploi. Voilà comment on y va sûrement. Mais si je sais pas où je vais, on n'a pas à me donner le viatique. On me donne le viatique si je sais où je vais. Si on doit me dire, tu sais, il y a quelque part où aller, c'est que c'est pas moi qui y vais. Alors c'est Israël qui a pour charge de faire comprendre ça aux autres. Mais la Torah n'a pas à dire à Israël qu'il y a quelque part où aller. Il y va. C'est ça Israël, c'est celui qui va. Comment ? Bon, alors écoutez, ça veut dire qu'on est plus ou moins Israël. Et